Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Le retour de quoi je me mêle. Un grand merci d'être là. Notre deuxième partie. Vous le savez, tous les week-ends, toute l'actualité tech avec Gonzague Dambricourt et Anthony Morel. Messieurs, on enchaîne sur Netflix. Alors, deux actualités Netflix. On va commencer par la tienne, Anthony, puis après on reviendra sur ce partage de compte qui voilà est un vieux serpent de mer. Hein. Ça fait des mois et des mois que Netflix nous prépare à la douloureuse. On va y revenir. Mais tu voulais nous parler. On évoquait beaucoup l'intelligence artificielle il y a un instant dans la première partie. On va rester dans ce domaine puisque même dans la conception de séries, on fait appel à l'IA aujourd'hui.
Ouais, il y a une mini polémique autour de Netflix, bon, polémique avec des guillemets quand même, hein, mais autour d'un programme, d'une mini-série animée, qui est disponible sur Internet d'ailleurs, qui s'appelle Dog and Boy, donc c'est l'histoire d'un petit garçon et de son chien robot. Et le problème, entre guillemets, c'est que la totalité alors ce qu'on appelle le background work, donc c'est les paysages, les décors, oui, etc., ont été conçus par une intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on a mis les illustrateurs au chômage, quoi, plus ou moins. Alors, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'on voit un peu comment ils ont travaillé. Donc, il y a quand même des illustrateurs qui ont fait une sorte de travail d'esquisse, quoi, si tu veux, qu'on a proposé à ce moteur, à cette intelligence artificielle, et l'IA ensuite a fait des paysages absolument magnifiques. Et donc, l'IA est crédité au générique de la série. Tu as intelligence artificielle avec je sais plus comment elle s'appelle.
Et donc, Cela dit, quand tu vois que dans la série, il y a un robot chien, c'est pas mal.
Ouais, on est dans la thématique, t'as raison. Mais du coup, il en a pas fallu plus pour que sur les réseaux sociaux, parce que Netflix s'est un peu vanté de ce truc, et en fait, ils se sont fait tomber dessus notamment des gens qui disent, mais attendez, vous avez pas honte, en gros, l'idée, c'est de faire baisser le coût des séries en mettant tout le monde au chômage. Donc, c'est une illustration concrète aussi de la façon dont l'IA va aider, alors, gain de productivité, mais aussi automatisation d'un certain nombre de tâches, et y compris des tâches artistiques croyait réservées aux êtres humains. En fait, pas du tout.
Parce que Gonzague, aujourd'hui, c'est les décors, mais demain, ce sera tout le dessin animé qui sera fait par l'IA, non? Je sais pas, mais...
En fait, ça concerne évidemment plein de métiers. L'argument du boss de Microsoft, c'est de dire... pour nous, on espère que l'intelligence artificielle, de la même manière que les robots physiques qu'on voit dans les usines de voitures et partout, permettront aux humains de faire des tâches plus intelligentes. Alors, sur la conception du décor et sur le côté artistique, ça, je trouve ça vraiment dommage. Mais effectivement, par exemple, dans le cadre de la comptabilité, jusqu'à il y a peu, les comptables saisissaient vraiment ligne par ligne tous les documents, tous les trucs d'une facture. Ils ne faisaient pas une démarche ça dépend des métiers, hein, on va pas rentrer dans le détail, mais d'analyse, d'apport d'informations à l'entreprise pour laquelle il travaille, faisait de la saisie.
Oui, des tâches répétitives, avec peu de valeur ajoutée.
Voilà. Et donc, dans ces contextes-là, moi, je trouve que c'est intéressant, l'intelligence artificielle. Évidemment, il faut qu'on arrive et c'est toute la balance à trouver pour tous ces créateurs de solutions, la balance entre on ne détruit pas trop d'emplois, mais bon, c'est sûr que ça va en détruire, de même façon que les caisses automatiques dans les supermarchés, tout détruit de l'emploi et en reconstruit d'autres. Et comment on fait pour continuer à utiliser le potentiel créatif, intelligent du cerveau humain qui peut quand même apporter les jolies choses qu'on connaît autour de nous.
Ouais, c'est ça.
Mais ce qui est marrant, c'est qu'en fait, il y a des levées de boucliers parce que cette fois-ci, ça concerne finalement les boulots en col blanc. C'est-à-dire, c'est les boulots forte valeur ajoutée intellectuelle.
Qui se sentaient pas menacés.
Exactement, qui se sentaient complètement à l'abri. C'est-à-dire que l'automatisation, la robotisation dans l'industrie, bon, aucun problème. Ouais. Tu vois, on remplace tous les ouvriers par des robots. Il n'y a pas de souci, ça fait gagner en productivité. Ouais. Mais là, tu commences à toucher à des métiers artistiques,
à des métiers intellectuels. À du jus de crâne, en fait.
À du jus de crâne, exactement. Et là, on commence à dire, ah ouais, quand même. Mais c'est chiant, ce truc.
C'est ce que je fais, dis donc.
C'est ce que je fais, attends, il va me remplacer le machin.
Même nous, on se pose des questions.
Bah, bien sûr. Non, mais tous les métiers, je pense, sont concernés.
Tu te dis, bon, bah voilà, quoi.
Il faut trouver toujours l'endroit. C'est ce que tu disais en fait, Gonzague, vraiment les domaines où l'humain va garder quand même une valeur ajoutée et comment l'humain peut garder une valeur ajoutée face à la machine. Moi, je pense qu'il y aura toujours évidemment des choses à faire, mais sur la partie artistique, c'est quand même ça pose quand même des questions, tu vois.
Après, je trouve que la polémique concernant cette série, c'est un peu dur pour Netflix parce que finalement, si c'est pas Netflix qui l'aurait fait, c'est sans doute d'autres
studios ou
des producteurs. Et en fait, ça faisait partie de la com de Netflix en disant, ben regardez, aujourd'hui, grâce à l'IA, on arrive à faire les décors d'une série animée.
Ouais, mais c'est ça. Mais tu vois, bah, par exemple, je crois que c'est le mois prochain où au Japon, t'as un éditeur de manga qui va sortir le premier manga qui a été conçu intégralement par une IA. Donc c'est pareil. Donc tu vois, tu peux faire le scénario, tu peux faire les dessins. Ouais. Tu vois, tu demandes à ChatGPT de t'écrire une histoire, il t'écrit une histoire. Tu l'as fait illustrer par Midjourney ou par Dali. Il te l'illustre et t'as un truc qui est, alors qui sera peut-être pas aussi bien que ce qu'aurait pu te faire un illustrateur humain, mais qui sera à 90% aussi bien. Donc tu vois, pour le consommateur lambda, c'est largement suffisant.
Je me dis que c'est peut-être le job lui-même qui change. C'est-à-dire que de la même façon que le job d'acteur a changé, parce qu'avant il tournait dans des vrais décors, en physique, et maintenant il tourne devant des murs de LED qui sont complètement incroyables. Si vous avez vu les derniers tournages des Star Wars,
incroyable.
C'est que du décor en écran.
Mais c'est des
écrans c'est tellement immersif. Et là, peut-être qu'aussi le métier de créateur, de dessinateur change, en mode, j'ai l'idée en tête, mais je ne vais pas forcément totalement la réaliser moi-même. Et de la même façon, je pense que la conception assistée par ordinateur, le dessin assisté par ordinateur ont aussi changé ces métiers. Et peut-être qu'à l'époque, on tenait les mêmes discours en disant, oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'on va faire du mec qui faisait de la gouache sur toutes les feuilles? Et les premiers dessins animés, c'était de l'animation. En fait, ce débat, il existe à chaque fois. L'intelligence artificielle, elle a peut-être une vitesse supérieure, il y a un impact supérieur sur le côté, on va me remplacer.
Et puis, bon, il faut quand même rappeler que Netflix utilise l'IA depuis de très nombreuses années pour les recommandations sur les séries, etc. Et je sais pas si vous vous souvenez de l'époque de House of Cards. J'avais entendu une histoire comme quoi le scénario d'House of Cards avait été généré par les requêtes des internautes et par de l'IA en quelque sorte, parce que Netflix voulait pas rater son coup, c'était sa première grosse série, et ils avaient pompé en fait tous les scénarios les plus on va dire séduisants pour une série grâce justement à l'IA. Donc finalement, et à l'époque c'était passé complètement inaperçu, ça m'avait choqué cette histoire-là un petit peu, je m'étais dit bon quand même, et finalement l'IA ne s'était pas trompé parce que House of Cards avait été un énorme succès, et peut-être qu'ils l'ont fait avec d'autres séries d'ailleurs.
Absolument, mais j'espère que c'est pas un truc qui se généralisera, enfin qui deviendra vraiment la norme. J'avais entendu un peu le même genre d'histoire sur les Amazon Kindle, où en gros à partir de ce que lisaient les gens, jusqu'à quelle page ils allaient, les pages qu'ils relisaient ou sur lesquelles ils passaient le plus de temps. En fait, tu pouvais récupérer des métriques et il y a des auteurs qui s'en servaient pour créer des bouquins qui allaient potentiellement plaire au lecteur en partant de ces trucs-là. Et tu te dis, c'est un peu la négation de l'art, quoi. C'est la négation de la littérature ou du film. Ouais. T'es pas censé faire un truc qui va forcément cocher toutes les cases de ce qu'attend une personne, quoi. T'es censé, au contraire, essayer d'étonner aussi avec des choses un peu différentes. Là, tu peux aussi aller vers une forme d'uniformisation, quoi. C'est un peu le problème.
Après, c'est ce qui va, à mon avis, faire siffler la fin de la retraite, c'est le talent. C'est-à-dire que un romancier qui se prend ses métriques malgré tout, et qui a du talent pour raconter une bonne histoire, il va la raconter de la même manière, sa bonne histoire, c'est
probablement
ça.
Probablement.
Ouais. Mais bon, enfin, tout ça est super intéressant. Dans l'actu aussi Netflix, c'est les partages de comptes. Alors là, ça fait un moment que Netflix.
Alors qu'est-ce qu'ils font pas. Oh, j'y comprends plus rien, moi. Ils reviennent en arrière.
Alors visiblement, et ça c'est tombé il y a quelques heures, Netflix revient sur le tapis avec ce partage de comptes et a lancé au Portugal, en Espagne, en Nouvelle-Zélande, je crois, et dans d'autres pays, l'option partage de compte. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas tous dans le même foyer, que vous partagez le même compte Netflix, eh bien au bout d'un moment, encore une fois, l'IA de Netflix va détecter qu'il y a un bug, que c'est pas normal que, je sais pas moi, Anthony, tu es à Marseille et que tu bénéficies de mon compte, moi qui suis à Paris, eh bien, tu seras sommé de payer une somme supplémentaire. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que cette somme, donc qui est de quelques euros, varie selon les pays. C'est-à-dire que au Portugal, je crois que c'est 3,99€. Si tu es en Espagne, c'est 5,99€. Et si tu es au Canada, c'est une autre somme.
Donc ils le font en fait en fonction du PIB du pays, j'imagine, ou quelque chose comme ça, du niveau de vie des gens
par rapport au pouvoir d'achat.
C'est ce qu'on connaît du prix de l'abonnement à Netflix, du prix de l'abonnement à Spotify, à YouTube Premium, qui varie énormément d'un pays à l'autre, hein, comme on en parlait avant de prendre l'antenne. 2 euros pour YouTube Premium en Argentine versus 12 chez nous, c'est un peu la même démarche chez Netflix. Mais ce qui est marrant, c'est qu'autour de ça, du coup, ils lancent des fonctions pour essayer de faciliter cette transition vers il va falloir payer les cocos, de transfert de profil. Avant, c'était pas du tout possible d'exporter ton historique de ce que tu as regardé vers un nouveau compte, etc. Et là, ils se disent, cette et séparation de gens qui ne se connaissent pas vraiment,
c'est ça.
Elle va peut-être obliger à
migrer. Et le truc en plus, c'est que en fait, le Netflix a limité le nombre de comptes supplémentaires payants par abonnement. Mmh. C'est-à-dire que si tu as un compte premium où tu payes quasi 20 dollars ou 20 euros,
c'est que deux comptes.
C'est que deux comptes éligibles au surplus.
Bah heureusement, parce que sinon les mecs en feraient un business. T'imagines, t'achètes un compte et puis tu le sous-loues tu vois, à 10 000 personnes, quoi.
C'est clair.
Écoute, moi je trouve ça, je vais peut-être pas me faire que des amis, je sais qu'on n'est pas complètement d'accord là-dessus, moi je trouve ça normal en fait que Netflix à un moment tape du poing sur la table. Clairement, ça n'a pas été fait pour qu'on puisse partager son compte avec des gens qui sont à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du monde. Netflix, ça a été fait pour que tu aies ton compte, que tu puisses éventuellement avoir accès à Netflix sur 2, 3, 4 écrans au sein du foyer. Les gens ont un peu abusé le système. Après, la faute de Netflix, pour moi, ça a été d'être tolérant pendant des années et de laisser filer le truc. Et donc, du coup, d'une certaine manière, bah, ils ont dit non, mais c'est bon, c'est normal. Donc là, maintenant, maintenant qu'ils tapent du poing sur la table, les gens disent attendez.
Ça va même plus loin que ça, Anthony. C'est-à-dire qu'il y a quelques années encore, Netflix disait partager les comptes, ça nous fait plaisir.
Oui, c'est ça, ils assumaient
le truc. C'est-à-dire qu'il y a eu des tweets et des posts Insta, moi je me souviens, où ils disaient partager les comptes, c'est prouver qu'on aime les gens, etc., etc. Enfin, il y avait cette abondance en disant ben voilà, tu payes 20 balles, Coco, mais c'est pas grave, tu vas pouvoir partager tes comptes à ta famille, à tes amis, etc. Nous, voilà, vous avez notre bénédiction. Et puis là, d'un coup,
ce discours-là, il fonctionne quand t'es une entreprise de croissance, mais dès que t'arrives à un plateau d'utilisateurs, comme c'est le cas de Netflix, ou qu'en tout cas la croissance est largement moindre, il y a un moment, tes actionnaires, ils te disent, bah oui, mais là, il va falloir générer de la rentabilité, et donc pour ça, il va falloir que peut-être que les 100 millions là, de passagers clandestins,
tout ça dans un contexte
il lâche un peu d'argent.
Tout ça dans un contexte de concurrence incroyable.
Et Ross. Et d'augmentation de prix régulière chez Netflix, notamment Amazon aussi a augmenté ses prix, mais
Disney aussi.
Moi jusqu'à présent, ça faisait passer la pilule de me dire je paye plus cher mais je partage mon abonnement avec ma famille, etc. Et si ça devient vraiment compliqué et que ton abonnement te revient à 30-35 euros par mois, là, tu peux peut-être te poser des questions.
C'est le syndrome du homard que tu fais bouillir petit à petit. S'ils nous avaient jeté directement dans la marmite avec le forfait à 15 euros et pas de possibilité de partager le compte, ils auraient eu moins de clients. Par contre, en mettant au début 8 euros et puis partager, il y a pas de souci. Il y a plein de gens qui viennent. Puis après, tu montes, c'est plus 8 euros, c'est 10. Bon, puis maintenant, c'est 12. Bon, je reste quand même. Bon, par contre, tu peux plus partager les comptes. Bon, je reste quand même. Je sais pas jusqu'où les gens peuvent rester.
Au bout d'un moment, ça va déborder. Et les gens, je pense que c'est une décision impopulaire qui va avoir des conséquences sur le nombre d'abonnés de Netflix, je pense.
On va voir. Ça va être intéressant, justement, à voir sur les prochains résultats de Netflix.
On va voir.
On va voir. Moi, je suis pas convaincu. En vrai, je pense que les gens vont avoir encore une tolérance. En gros, on est tellement accro à ces plateformes de streaming que ça va être très compliqué de dire c'est pas grave.
Mais par exemple, vous regardez tout le temps Netflix, parce que moi je suis abonné depuis toujours à Netflix,
comme toi.
Et je paye 20 euros depuis des années à Netflix. Mais alors peut-être que les membres de ma famille regardent Netflix, mais moi perso, il y a des semaines entières où je regarde pas Netflix. Je vais plutôt sur Disney+, ou sur HBO,
Et ça me fait penser que, alors comme toi déjà je me dis pareil, je paye 17,99 par mois pour le premium, ce qui est quand même une sacrée somme, plus je paye d'autres plateformes. Il me dit effectivement, je regarde peut-être une série par mois sur Netflix qui fait très très cher à ce prix. Et est-ce que c'est pas plus intéressant de prendre des offres de bouquets qui permettent d'avoir plusieurs plateformes? Alors ça reste une actualité compliquée, on a vu HBO qui part de chez OCS, etc.
Et qui va arriver là chez Amazon.
Contrairement à la musique, où si tu t'abonnes à Spotify, Deezer, et toute autre offre, j'arrive plus à parler, de catalogue, t'as quand même accès à quasiment tout. Et ici, sur la vidéo,
c'est différence finalement.
C'est vrai.
Donc ça coûte très 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 cher si tu as envie de voir trois séries différentes qui sont sur trois plateformes et être dans la légalité.
Et c'est vrai que c'est pareil, t'as raison, j'avais pas réfléchi comme ça, mais Netflix c'est pareil, c'est un peu mon abonnement de base. Après les autres, moi je switch, j'aime pas avoir cinq forfaits en même temps, donc en fonction des intérêts que j'ai pour telle ou telle série, je vais me désabonner de Canal et puis je vais me réabonner à Orange, etc. Mais Netflix ça reste mon truc de base,
c'est
que j'ai tout le temps.
Mais peut-être que ça va te saouler cette histoire de compte, parce que tu vois, moi typiquement, pour tout vous raconter, je partage mon compte Netflix avec avec ma mère, qui est à Marseille.
Qu'est-ce qui va se passer? Cher Reed Hastings, je connais.
Il est plus
un
là.
Certain.
Il...
François, oui, c'est vrai. Un certain François Sorel. Bon, enfin, il doit avoir quelques liens quand même.
Oui, je pense qu'il doit être connecté quand même avec la direction.
En échange d'un abonnement gratuit, je suis en mesure de vous donner des noms,
de vous dénoncer.
Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas ma mère qui va payer l'abonnement. En plus, je veux dire, c'est déjà facturé chez moi. Donc, je vais offrir cet abonnement. Mais si je commence à faire ça avec ma mère, avec mon père, enfin, voilà, ça va être débile, cette histoire-là. Et finalement, ce que tu disais, c'est intéressant. Peut-être que je vais arrêter Netflix parce qu'en ce moment, il n'y a rien du tout. Bon, ma mère va gueuler, mais peut-être que je prendrai Disney et puis je reviendrai à Netflix quand il y a, je sais pas moi, Stranger Things qui revient. Enfin, ça va peut-être aussi changer le socle Netflix.
C'est possible.
Que beaucoup d'abonnés ont.
C'est un risque qu'ils prennent, en tout cas en termes de business, ça c'est évident. Hein.
Tiens, on parle de série. On y reste avec cette série conçue avec des deepfakes.
J'adore. Et vraiment, alors pour ceux qui nous écoutaient, allez voir les images sur Internet parce qu'elles sont assez dingues. Cette série donc qui est diffusée au Royaume-Uni sur ITV, qui s'appelle donc Deepfake Neighbor Wars, donc les guerres de voisinage en deepfake. Et donc c'est une série qui a un casting absolument dingue puisqu'on y trouve. Alors vous avez, ça va de Idris Elba à Matthew McConaughey.
J'ai pas vu Adèle passer.
Je connais pas toutes les stars. Je suis pas très bon pour les reconnaître, mais ouais voilà.
Matthew McConaughey. Nicki Minaj.
Parle bien dans le micro. Anthony, parce que quand
Beyoncé aussi,
Billie Eilish, il y a tout le monde.
Ouais, vraiment, tout le monde y est, sauf que tout est faux, c'est-à-dire que tout est conçu à base de deepfake. Et c'est vrai que le résultat est absolument...
Spider-Man est là.
Spider-Man est là aussi, ouais. C'est absolument bluffant, le résultat est dingue. Donc en gros, on a demandé à des vrais acteurs de jouer les scènes, et ensuite on a incrusté le visage de ces stars sur leur tête.
Donc t'es en train de dire que là, ce qu'on voit, c'est pas les stars.
Ah non, c'est rien du tout là. C'est des acteurs sur lesquels on a calqué les têtes de ces stars. Et donc ils en ont fait un programme où en gros toutes ces stars habitent dans la même rue et ont des guéguerres de voisinage. Bon, c'est pas forcément le scénario le plus incroyable du monde, mais en tout cas ils ont fait cette série donc qui n'a coûté finalement pas grand chose par rapport à ce que t'imagines un casting comme ça pour le réunir, ça aurait été quand même assez dingue. Et c'est assez intéressant de voir que le deepfake en fait va devenir de plus en plus important dans les séries, dans le cinéma. Il y a pas mal d'expérimentation, celle-ci est probablement la plus aboutie et la plus extrême. Mais par exemple, la France avait été un peu pionnière. Plus belle la vie, il y avait eu un épisode, tu te souviens?
Oui, une comédienne qui était malade, isolée, cas contact avec le Covid, et qu'ils avaient pu remplacer par un deepfake.
C'est ça. Et alors, ça c'était un exemple. Donc ça,
après, il y a eu d'autres exemples.
Ouais. Encore Star Wars.
La princesse Leia, qui était décédée,
tout à fait,
qui réapparaissait dans un épisode.
Un peu tribute. Ouais.
Voilà, c'est ça. C'est assez émouvant d'ailleurs, parce que bon, voilà, quand t'es malade et que tu peux pas, et qu'on trafique ton visage, ok. Mais là, c'est quelqu'un qui est décédé. Ça pose aussi plein de questions d'éthique.
Exactement.
En quelque sorte, demain, on pourrait avoir un Belmondo de la grande époque, dans un nouveau professionnel. Enfin, je dis n'importe quoi.
Ben non, mais comme souvent quand on parle d'IA, c'est-à-dire
que Louis de Funès, un nouveau Fantomas, imaginez quoi.
Mais bien sûr.
Techniquement, c'est totalement faisable aujourd'hui.
T'as un potentiel qui est complètement dingue, c'est-à-dire effectivement remplacer un acteur qui est malade pour pas perdre une journée de tournage, remplacer un acteur décédé, un acteur qui par exemple joue le rôle de quelqu'un qui est gros ou quelqu'un qui est bodybuildé, mais il a pas ce corps-là, bah plutôt que de grossir pour le rôle, on va pouvoir prendre une doublure et incruster sa tête dessus. Enfin, on peut imaginer plein de trucs, mais derrière, t'as toutes les questions que ça pose, y compris en termes de consentement, parce que ces comédiens, je suis pas sûr qu'ils aient donné leur accord pour qu'on utilise leur image.
Mais alors,
de cette manière-là.
Qu'est-ce qui se passe là?
Je sais pas. J'ai pas la réponse. J'ai regardé
parce
un petit peu.
C'est quand même le trou dans la raquette, ce truc-là.
Ouais, je pense que légalement, c'est assez compliqué puisque tu utilises l'image d'autres gens.
C'est illégal.
Donc, tu te fais passer pour.
Mais c'est diffusé où ça sur
YouTube?
Diffusé
sur ITV.
Sur une chaîne de télé.
Ouais.
Ah, on peut imaginer quand même qu'ils se sont bordés juridiquement.
J'espère pour eux. J'imagine. Mais enfin, après, t'imagines le truc pour obtenir l'autorisation de toutes ces stars-là d'être en deepfake dans une série. Bon, je sais pas. Après, peut-être ils ont signé des gros chèques. Parce qu'après, derrière, t'as aussi, quand on parlait des dérives et de la boîte de Pandore qu'on ouvre, l'une des industries qui utilise le plus le deepfake, c'est le porno. Tu vois, les films pour adultes, très clairement, là, tu vas avoir, tu peux mettre la tête de n'importe qui sur le corps de n'importe qui. Bon, je te fais pas un dessin, moi.
Non.
Ça fait des chocs à pic, quoi. Mais c'est vrai.
Et ça va être sympa, tiens.
Ah, bah ouais, mais là, t'as un vrai sujet, parce que ça peut être un acteur, une actrice, ou ça peut être ton voisin de bureau, ou.
Parce que le truc intéressant, c'est que la série et toutes les bandes annonces de la série commence par un avertissement. Tout ceci est faux, deep fake. Et donc, de sensibiliser les gens à l'existence de cette chose peut être aussi intéressante, notamment dans ce dont tu parlais pour le porno, parce que ça peut être malheureusement utilisé pour le revenge porn. On en a entendu parler il n'y a pas longtemps avec un streamer qui avait en fond d'écran, enfin en fond de tab sur un navigateur, un site de deepfake où il y avait des concurrentes YouTube. Donc tu te dis effectivement, niveau éthique, un petit peu compliqué. Donc le côté sensibilisation, il est intéressant, je trouve, d'expliquer à une population pas forcément au courant que ça existe.
Ouais, c'est clair. Et puis imaginez, hein, deepfake, ce de quoi je me mêle, vous branchez ChatGPT sur nos visages en deepfake, qu'est-ce que ça donnerait, tiens? Ça serait cool d'essayer.
Faudrait tester, ouais. Mais tu sais qu'on pourrait tester...
Non, mais tester 5 minutes, se dire, ben voilà, on se retrouve tous les trois, ben c'est pas nous, hein, c'est l'IA qui gère, et voilà ce que ça donne. Et tu te dis, tu demandes à ChatGPT... commenter l'actu, alors même si on s'en fout, si c'est l'actu de 2020, c'est juste pour tester et voir ce que ça donne.
Faut qu'on voit techniquement ces jeux, mais c'est vrai que ce serait une super bonne expérience, t'as raison. Et d'autant qu'on peut créer maintenant des clones vocaux, il y a eu aussi
ouais,
une polémique du
18 juin. Clones vocaux.
Ouais, absolument.
Du général de Gaulle qui a été reconstitué parce qu'il n'y avait pas d'enregistrement de cet appel,
ouais,
il n'y avait que les paroles.
C'est ça.
Et, ils ont refait sa voix.
Et tu as un outil là qui est accessible aujourd'hui qui s'appelle Eleven Labs et que vous pouvez tester gratuitement. C'est très étonnant. Alors, le problème c'est qu'en français ça marche pas très bien. C'est fait pour les Américains pour l'instant, mais c'est assez dingue, c'est-à-dire que tu lui envoies un extrait vocal d'une minute, alors plus l'extrait est long, mieux c'est, mais ça peut être ta voix à toi, la voix d'un ami ou la voix d'une personnalité, et ensuite tu tapes du texte au clavier et tu vas entendre ce texte avec ta voix, tes intonations, c'est bluffant. Alors moi je l'ai testé et c'est vrai qu'en français, alors il reprend ta voix, mais t'as un gros accent texan comme ça, donc ça. C'est pas très crédible. Mais et là encore, les dérives, c'est que directement t'as eu des extraits sur Twitter. On trouvait des extraits de, mince, c'est quel le nom de l'actrice, je sais plus. Enfin, une actrice connue qui lisait des extraits de Mein Kampf et t'entendais, c'était vraiment sa voix. Ouais, on lui a fait lire des extraits de Mein Kampf. Tu vois, ça va quand même très très loin.
C'est la version moderne de, je sais pas si vous vous souvenez, les sites internet qui permettaient d'uploader ta graphie et de faire une police avec ton écriture. Là, maintenant, c'est avec ta voix, beaucoup
et
plus.
Et voilà. Ça me fait penser à l'Hôtel du Temps, vous savez, l'émission Thierry Ardisson qui avait été diffusée l'année dernière avec Dalida.
Oui, ça n'a pas duré, non.
Ça n'a pas duré, et c'est d'ailleurs, Thierry Ardisson a beaucoup souffert de l'échec de ce truc-là, qui était très ambitieux. Hein. C'était Dalida, en fait, qui répondait à des questions que Thierry Ardisson posait. Il s'était fait rajeunir, et bien sûr, Dalida, qui nous a quittés il y a plusieurs dizaines d'années, répondait à une interview mystique, en quelque sorte. Hein,
j'avais complètement oublié ça, mais t'as raison.
C'est exactement ça. Ouais. Il nous reste 2 minutes 30. Est-ce qu'on a le temps d'évoquer quand même l'une des grosses actus aussi du moment? C'est la volonté du gouvernement de, légiférer sur l'accessibilité des sites porno pour les mineurs.
Ouais, puisqu'on en parlait effectivement. Alors c'est vrai qu'ils doivent annoncer, on n'a pas encore eu tous les détails, donc peut-être que d'ici la diffusion de quoi je me mêle, on aura plus de détails, mais en gros l'idée ce serait de limiter l'accès aux mineurs, c'est-à-dire en gros de faire en sorte que les mineurs doivent prouver leur identité. Aujourd'hui quand on va sur un site porno, c'est pas très compliqué, on vous demande si vous avez plus de
18 ans. Si t'es adulte ou pas, et si tu dis...
Donc à part si vous êtes complètement idiot, normalement vous avez accès au site.
Tu es majeur et
déjà sur plein de sites comme ça, tu peux même pas dire non.
Oui, c'est
tu
ça.
Tu peux juste cliquer je suis
majeur.
Ben voilà. Oui, d'accord, ok.
Donc, non, je reviens en arrière, évidemment. Et donc là, l'idée, ce serait de créer une sorte de certificat de majorité qui prendrait la forme de ce qu'on comprend, alors c'est des informations de presse, il y a Le Parisien notamment qu'on a parlé, d'une application qu'on devrait télécharger sur son smartphone, donc j'imagine mineur comme majeur, et qui permettrait de valider notre... donc quand tu te connectes
un peu
à un
comme
site,
la validation des paiements sur ton smartphone,
exactement,
en fait.
Exactement.
Via carte bleue.
Exactement, sauf que ils veulent que ça reste anonyme. Alors c'est là la subtilité du truc, c'est-à-dire qu'il faut que tu prouves que t'es majeur, mais ça doit rester anonyme. Et donc peut-être que les opérateurs entreraient dans la boucle parce que eux savent qui est mineur et qui est majeur sur le téléphone, et c'est eux qui peut-être donneraient cette information-là tout en anonymisant les données. Bon, encore une fois, on n'a pas tous les détails. Moi, ça me semble être une usine à gaz incroyable et surtout un truc qui est contournable en trois lettres, VPN.
Hein,
t'as un VPN, globalement, l'application, le machin, tu t'en fous. De toute façon, le site porno, il croira que t'es aux États-Unis. Donc ça,
Je pense que toutes les boîtes de VPN doivent se dire, allez-y, sortez vite ce truc-là, ça va être cool.
Ils sponsorisent toutes les vidéos YouTube que vous connaissez. Donc déjà, ils font un business énorme sur des gens qui se servent d'un VPN sans même vraiment savoir pourquoi ils sont sur un VPN. Mais... Donc là, il y aura une raison presque valide de s'en servir si tu veux accéder tranquillement.
Ça paraît compliqué tout ça.
Il n'y a pas de solution magique. Je veux dire, si tu veux vraiment avoir un système qui empêche les mineurs d'y aller, il faut soit demander une carte d'identité, mais c'est ce que font certains États aux États-Unis par exemple, ou soit faire carrément de la reconnaissance faciale ou des trucs comme ça. Alors, sans aller jusque-là, mais par exemple, l'Angleterre, ils testent un truc, c'est la reconnaissance, pas la reconnaissance faciale, mais l'analyse des traits du visage pour déterminer si t'es majeur ou mineur. Parce que ouais, tu peux en fait faire ça à partir de l'algo. Enfin, ça va quand même loin, hein, je dis pas le contraire. Est-ce que si tu vas sur un site porno...
T'imagines un mineur se faire scanner le visage pour aller sur un site porno, enfin je veux dire, on est dans des situations...
Ou un majeur, parce que tu dois aller faire aussi. Parce que normalement, c'est le majeur qui doit se...
Ouais, c'est ça.
Le mineur ne devrait pas y accéder.
Non, mais c'est ça.
C'est les dispositifs techniques qui sont toujours un peu compliqués. Par exemple, la France, pour bloquer l'accès aux sites de partage en torrent, a fait interdire aux opérateurs la résolution des adresses. Mais en fait, n'importe quelle personne un tout petit peu motivée change le système utilisé,
accède
à tous les sites.
Bien sûr. Et bien voilà, ça sera le mot de la fin, messieurs. Un vrai plaisir que de passer cette petite heure en votre compagnie. Ce De Quoi Je Me Mêle est terminé. Merci, Gonzague.
Plaisir.
Évidemment, tu es chez toi, tu reviens quand tu veux. Tu as la carte Platinium hein, de Quoi Je Me Mêle et de Tech & Co. Tout comme, évidemment, Anthony.
Merci les amis.
Merci à tous les deux. Ce De Quoi Je Me Mêle est terminé. Rendez-vous la semaine prochaine. Si vous êtes un fan de tech, allez sur la chaîne Tech & Co. Je pense que vous ne serez pas déçus. Et j'ai le plaisir aussi de vous retrouver tous les soirs du lundi au jeudi en direct à la radio, à la télé sur BFM Business pour Tech & Co. Là encore, on parle de sujets qui devraient sans doute vous plaire. N'hésitez pas à y jeter un œil. À très vite et merci de nous suivre.
De Quoi Je Me Mêle sur BFM Business et Tech & Co.